Sœurs et frères, nous cheminons depuis la rentrée avec la première lettre de Paul aux Corinthiens. On a évoqué les principaux thèmes de l'épître en rapport avec la vie dans le monde, la vie de l'Église, l'espérance de la résurrection dimanche dernier. Hier soir, avec le groupe des jeunes étudiants, jeunes actifs, nous avons abordé les questions autour de la sexualité, pas seulement autour d'ailleurs, et j'ai pu à nouveau avec eux lire dans cet épître de Paul des paroles très éclairantes, je l'espère, sur notre relation au corps, au plaisir, à l'autre, bien sûr. Alors je ne sais si pour vous c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais aujourd'hui je vais aborder une toute dernière question. Et puis nous en aurons fini avec cette traversée corinthienne pour un petit moment au moins. Cette toute dernière question que j'aimerais méditer avec vous, je l'ai gardée pour la fin parce que, à mes yeux, elle est centrale, elle est première, ultime, fondatrice de ce que nous appelons banalement, dans notre langage, le christianisme. Et Paul, d'ailleurs, avait placé cette question au tout premier rang des choses à dire à ses amis corinthiens. Et on peut même dire que tout ce que Paul dira après avoir dit cela n'aura de sens, de profondeur et de vérité qu'à la lumière de cette question centrale. Suspense insoutenable. Hein ? Eh bien, je prends la main avec la diapo et c'est le message de la croix. C'est le cœur de ce que l'Évangile dit de Dieu. C'est le message sans lequel nous restons en dehors de la vie et du salut. Le message de la croix. Je trouve que les paroles, les tout premiers mots de Paul ici sont assez troublants à bien y réfléchir. Il parle de la parole de la croix. Parce que la croix, donc la mort du Seigneur Jésus à Golgotha, bien de ça qu'on parle. C'est habituellement compris comme un événement douloureux, violent, injuste, qui est décrit dans les évangiles, dont on parle comme événement, un peu comme les compagnons d'Emmaüs, hein, en parlent, chemin faisant. Les représentations, elles sont indénombrables, les représentations des peintres de l'histoire ont beaucoup insisté sur la douleur du Christ en croix, la contemplation de la souffrance. Mais pour Paul, la croix, c'est aussi une parole, un message, pas seulement un événement. La croix parle. La croix proclame quelque chose. Et je crois qu'il est de la toute première importance pour nous tous d'entendre et de saisir à nouveau la portée de cette parole de la croix, ce que nous allons essayer de faire ce matin. Ce message nous dit qu'en Christ crucifié, Dieu a renversé la table de tous les schémas, de tous les modèles religieux du monde. Et que dans ce renversement, il accorde à tous ceux qui reçoivent ce message de la croix une véritable plénitude, un salut. Mais voilà, ce renversement n'est pas chose facile. Et c'est d'ailleurs le propre des renversements. Ils s'opèrent rarement en douceur, et souvent dans la douleur. Nous avons tous des représentations de Dieu. Elles viennent de loin, certaines. Elles ont été transmises, nous les avons choisies, elles sont là, mais on ne les interroge plus beaucoup, quelquefois plus du tout. Ces représentations s'expriment de diverses manières, dans nos témoignages, dans nos cantiques, nos cultes, nos prières. Et si vous voulez bien, on va se prêter tous ensemble maintenant à un petit exercice pratique et silencieux. Pendant quelques instants, chacun de nous va se poser la question: comment je me représente personnellement Dieu? Qui est-il pour moi? Je vous laisse tranquille quelques instants avec cette question. Pardon d'interrompre votre dialogue intérieur, hein, mais voilà, peut-être avez-vous vu germer, apparaître quelque chose, et gardons ça au chaud. Paul, lui, va résumer en deux phrases les grandes représentations de Dieu qu'on rencontre ici-bas. Il y en a certainement d'autres, mais peut-être que c'est les deux principales. Au verset 22, il dit: les Juifs demandent des signes et les Grecs cherchent la sagesse. Beaucoup de chrétiens construisent leur foi en Dieu sur l'observation des signes. Ça prend quelquefois même plus de place que l'observation de la parole. La demande, l'attente de miracles. Et puisque Dieu est Dieu et que le Christ a accompli des miracles, on pense être en droit d'attendre la même chose. Les Juifs demandent des signes, les chrétiens aussi, écrit Paul, comme pour dire qu'il manque quelque chose à cette attente. Que le Dieu de Jésus-Christ n'est pas un distributeur à la demande de miracles, de prospérité, pour ceux qui sauraient bien le demander, pour ceux qui seraient les plus méritants, spirituellement, ou encore selon son bon plaisir, tout simplement. Alors, cela ne signifie pas du tout que Dieu, dans sa grâce, ne réalise pas de miracles et qu'il ne pose pas ici et là des signes pour nous aider à marcher. Ça ne veut pas dire ça. Mais ce que dit fondamentalement le message de la croix, c'est que Dieu désire se révéler à nous et au monde d'une autre façon. La deuxième phrase, c'est les Grecs. Eux cherchent la sagesse. Bon, les Grecs, c'est-à-dire les gens de la culture gréco-romaine qui est dominante dans tout le bassin méditerranéen, et dont Paul est aussi un ressortissant. Il est aussi juif que grec, Paul. Pour les Grecs, le salut vient de la pensée, de la philosophie, du savoir, de l'exercice de l'intelligence, et puis aussi de la morale, que l'on construit à partir de là. Et beaucoup de chrétiens aussi aujourd'hui construisent leur foi, alors sur un mot qu'on entend partout, sur des valeurs. Les valeurs chrétiennes, c'est le mot à la mode. Quelles sont vos valeurs ? Et la foi est réduite à quelque chose qui se pense, qui se conçoit, qui se construit comme ça, de manière rationnelle, intellectuelle. Dieu, ce serait une petite lumière, vous voyez, qui éclaire vos pensées et qui vous fait voir et comprendre bien les choses, qui éveille l'intelligence. Voilà. Et alors, dans l'Église, toute la place serait donnée alors à la théologie. C'est un mot qui fait peur, ça, hein ? Théologie. Et aux valeurs morales, aux systèmes éthiques qui peuvent en découler. Et même si la pensée, la théologie ont leur place dans l'Église, je suis quand même un peu mal placé pour dire le contraire, j'ai pas envie de me retrouver au chômage d'un coup, du jour au lendemain. Elle est insuffisante. Elle est insuffisante pour dire ce que Dieu est essentiellement, fondamentalement, radicalement. Voilà les deux types, les deux principaux types de représentation de Dieu. Ceux qui, comme les Juifs, isolent Dieu dans la toute-puissance, les miracles. Et ceux qui, comme les Grecs, l'isolent dans l'omniscience, la toute-connaissance donc, dans des systèmes de pensée. Deux écueils, en quelque sorte, que Paul dénonce. Il va prendre le contre-pied de ces deux modèles, ces deux conceptions de Dieu, et il va affirmer ce qu'il considère comme l'élément central. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en a qu'un. Nous proclamons un Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les autres. La parole de la croix, c'est donc le contraire à la fois de la recherche de puissance et de cette recherche de maîtrise intellectuelle qui fabrique, peu ou prou, toutes les religions du monde. Alors pourquoi la parole de la croix vient-elle prendre à revers nos conceptions du divin, nos attentes naturelles de Dieu, vis-à-vis de Dieu ? Pourquoi ? Parce que justement, la croix n'est pas seulement une potence, un lieu de supplice. Elle l'est, bien sûr, mais pas seulement. Dans le judaïsme, c'est intéressant. La croix, eh bien, c'est le signe d'une malédiction. Et Paul l'écrira aux Galates, où il mène le même combat théologique que chez les Corinthiens. Il focalise sur l'essentiel en disant aux Galates, « Maudit soit celui qui est pendu au bois », en citant la parole du Deutéronome 21, verset 23, qui dit qu'en gros, celui qui est pendu au bois est considéré comme maudit par Dieu. Deutéronome 21, 23. Et pour les Grecs, on vient de voir pour les Juifs, et pour les Grecs, la croix, qu'est-ce que c'est ? Bon, en fait, c'est connu, hein, chez les Grecs, c'est le supplice qu'on réserve finalement au dernier des derniers, au rebut de l'humanité. C'est-à-dire les esclaves en fuite, les repris de justice, tout ça. La crucifixion vise à humilier, pas simplement à tuer, à humilier et à terroriser le condamné. Le condamné à mort. Et Paul répond aux uns et aux autres, nous prêchons Christ crucifié. nous annonçons que l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction et la bénédiction divine, ça veut dire Christ. C'est comme ça que c'est le sens du mot Christ, celui qui a reçu l'onction. Celui-là est un crucifié, un maudit. C'est ça que prêche Paul. Christ, crucifié, sont deux mots qui nous expose à une contradiction dans les termes, une impossibilité, un non-sens, un scandale et une folie, pour reprendre les mots de Paul. Et pour Paul, c'est précisément là que Dieu se révèle, qu'il abat toutes ses cartes, que son visage jaillit dans la pleine lumière. C'est là, sur la croix, qu'il se fait connaître entièrement, ultimement, sur cette croix atroce, maudite, honteuse. Alors on en a fait un très joli objet de culture chrétienne et de témoignage, on peut aussi, hein. Mais au départ, c'est pas ça, la croix. Avouez que nos représentations en prennent un sacré coup, là. On se représente Dieu, peut-être, je ne sais pas, mais souvent, comme un juge. Mais ici, il se donne à connaître comme un condamné. On le représente comme un Dieu tout-puissant, mais qui, en Christ, renonce à la puissance pour s'abandonner à ses bourreaux. Comme un Dieu inatteignable, immuable, mais là, sur la croix, il est nu, il est seul, il meurt. Cette pensée est inacceptable. Mais c'est pourtant la manière que Dieu a choisie pour se présenter à nous. La parole de la croix dit ceci: en Jésus, le Christ, crucifié, les représentations anciennes du divin sont renversées. Sommes-nous prêts, nous, à entendre et à recevoir ce message renversant de la croix? Et plus encore peut-être, sommes-nous prêts à nous laisser renverser à notre tour par cette parole? Et c'est la suite qui nous y appelle. Nous proclamons, à partir du verset 24, nous proclamons, donc un Christ crucifié, mais, verset 24, pour ceux qui sont appelés, juifs et grecs d'ailleurs, on peut se tromper et puis être appelé quand même, hein, c'est intéressant, juifs et grecs, un Christ qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu, car la folie de Dieu est plus sage que les humains et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. Ça y est, Paul reparle de sagesse et de puissance, mais il ne réintroduit pas ici d'une main ce qu'il vient d'enlever de l'autre. Ce n'est pas ça le raisonnement. En l'occurrence, la puissance et la sagesse. Non, Paul réinterprète ces deux mots, puissance et sagesse, à la lumière de la croix. La puissance de Dieu réside en Christ crucifié dans sa faiblesse. Et il existe bien une sagesse de Dieu, mais c'est la sagesse de cette folie qu'est le message de la croix. Il y a une vraie sagesse divine, une véritable puissance divine, mais elles ne peuvent pas être trouvées en dehors du message de la croix. Là où précisément le renoncement et l'abandon deviennent puissance et sagesse. Attendez, alors, c'est quoi au juste la puissance dans la faiblesse? Parce que là, on marche un peu sur la tête quand même. Hein, on parlait de renversement, et la puissance dans la faiblesse, comment ça marche? C'est un peu la folie ce matin. Hein. Alors, j'ai pas d'autre chose que des images toutes simples. Et une image est très actuelle d'ailleurs. Une image de puissance de la faiblesse. Prenez un nouveau-né. Un nouveau-né tout nu. Tout fragile, 3 kilos. Qui pousse son premier cri à la maternité. Quelle est la puissance de ce petit bouchon? Vous n'avez qu'à regarder la tête du papa ou la tête de la maman. Et vous allez comprendre. Par sa seule présence, cette toute petite vie bouleverse, transforme puissamment la vie de ses parents, et puis des grands-parents, et puis des tontons et des tatas. La puissance de la faiblesse, c'est encore la flamme d'une petite bougie, vous la voyez là ? Qui peut s'éteindre au moindre courant d'air, mais qu'on voit de loin dans la nuit. Ou encore, pour reprendre le langage de l'Évangile, la petite graine de moutarde, hein, tu en as parlé ce matin, Gérard, la petite graine qui, minuscule, qui devient un arbre puissant, nourricier pour les oiseaux du ciel. Jésus dira que ce sont les derniers qui sont les premiers, que si on ne ressemble pas à des enfants, on ne pourra pas comprendre le royaume de Dieu. Après la puissance de la faiblesse, il faut regarder un peu la sagesse de la folie. C'est quoi ? C'est de se dire, dans un monde où chacun est appelé à devenir le meilleur, le plus performant, le plus riche, le plus influent, et bien que la vie est faite pour servir et non pas pour se servir. C'est de la folie pure, ce message-là, aujourd'hui, dans notre société, mais c'est la sagesse de la croix, c'est ainsi. La sagesse de la folie. La sagesse de la folie, c'est de croire en la gratuité des choses. Celle de la vie qui nous est donnée. Celle des rapports humains. De l'amitié. Du service. La gratuité de l'amour d'un Dieu qui se donne à chacun en échange de rien. La sagesse de la folie, pour reprendre les mots du Christ, c'est de déclarer heureux les pauvres. Ça ne va pas plaire à la CGT. Hein. Et non plus au patron. Non, non. Heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui ont faim et soif. Et d'annoncer qu'ils seront consolés. Rassasié. C'est la sagesse de la folie. Oui, le message de la croix renverse tous nos systèmes de valeurs, nos bruyantes logiques de réussite, de contrôle, de réalisation de nous-mêmes, nos visions sécuritaires de la vie, identitaires du monde, nos bonnes raisons, nos bonnes croyances, tout cela est renversé par le message de la croix. Elle renverse tout cela, la croix et son message, pour nous ouvrir la voie d'une véritable plénitude, tout autre, celle d'un royaume de Dieu où l'on peut se découvrir heureux dans le malheur, où l'on peut se découvrir fort dans la faiblesse, aimer dans la solitude ou dans la persécution. Pardonner dans le péché. Accompagner et bénir jusque dans la souffrance et dans la mort. C'est cela le message de la croix que je voulais méditer avec vous ce matin. C'est aussi le message de la crèche. Quelle folie! Quelle faiblesse, Mais quelle puissance et quel amour. C'est là que Dieu nous donne rendez-vous, frères et sœurs. Ne nous trompons pas de Dieu. Laissons-nous retourner par le message de la croix. Voilà ce que nous annonçons. Christ, Christ crucifié. Amen.